richesse du monde sur leurs maigres échines. Ils font partie de ce qu'on appelle les moyens de production. Ils sont partout dans le monde, dans les usines, sur les routes, dans les chantiers, dans les champs, dans les chansons. Ils sont dans les ateliers, chez les petits patrons,
ou sur les grandes chaînes de montage, chez les grands patrons.
Il est ouvrier,
elle est femme de ménage,
elle est employée,
ou il est au chômage.
Ils ou elles font la même chose.
Ils travaillent ou ils cherchent du travail.
Ils travaillent souvent pour un maigre salaire, juste quoi alimenter leur maigre misère. Ils travaillent évidemment pour gagner leur vie,
et souvent ils la perdent trop tôt aussi.
Ils ne possèdent rien à part leur force de travail.
Ils ne possèdent rien,
et pourtant Ils marchent. Beaucoup sont ignorants, mais peu sont imbéciles. Beaucoup sont intelligents, mais beaucoup sont serviles. Beaucoup ont de la dignité, mais certains l'ont vendu, vivent du trafic et du deal, et en sont exclus.
Beaucoup sont honnêtes et font ce qu'ils peuvent.
Beaucoup font la fête pour oublier ce qui se passe autour d'eux. Beaucoup sont alcooliques
et finissent raides comme une branche, profite de la retraite entre quatre planches.
Beaucoup sont fatalistes,
beaucoup sont réalistes,
beaucoup sont idéalistes,
beaucoup sont matérialistes,
beaucoup sont absentéistes parce que certains brouillent les pistes. Mais tous souffrent du système capitaliste, chacun pour chacun, et chacun fait de son mieux le comble. Ils sont seuls et pourtant si nombreux, sans unité, de masse difforme, et un mauvais mouvement, pas d'orientation. Et pourtant
Ils marchent.
Certains pleurent,
certains rient, certains sont perdus donc.
Certains prient, certains sont soucieux,
certains sont anxieux,
et certains sont combatifs,
et certains sont peureux.
Certains sont cocus, certains sont vieux garçons, certains sont amoureux,
dévorés par la passion.
Certains sont sportifs,
et pas grand chose dans le cerveau.
D'autres sont des cerveaux, mais complètement chétifs.
Certains sont papy, mamie, papa, maman.
D'autres élevés à la DAS, sans parents. Y'a des cœurs durs, des cœurs pris, des cœurs gros. Y'a des ordures, des murs gris, des corbeaux. Y'a des endettés et des entêtés, des enfants dégoûtés qui ne partent pas l'été. Y'en a même qui disent qu'ils sont heureux, mais écoutez-les, ouais, tous reconnaissent qu'ils sont exploités.
Tous reconnaissent qu'ils sont exploités.
Et pourtant
Ils marchent. Ils ne possèdent que leurs bras, ils marchent, mais ils ne sont pas unis. Ils marchent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils marchent, c'est une question de survie. Ils marchent, ils ne possèdent que leurs bras. Ils marchent, éparpillés des milliers, des millions. Ils marchent et cherchent des perspectives. Il y a ceux qui font partie du peuple et les ennemis.
Le reportage qui suit a été réalisé à partir de l'intervention de Bruno Poncelet au débat Pensée ensemble de CLIS 21 les vendredis 30 septembre et samedi 1er octobre. Les débats Pensée ensemble se tiennent à l'invitation de la coopérative CLIS 21 au LAG, le lieu autogéré de Liévin, et à l'auberge espagnole à Mont-Saint-Barœul. Le LAG et l'auberge espagnole sont deux espaces dans lesquels CLIS 21 intervient. Bruno Poncelet est chercheur et syndicaliste, et ses travaux l'amènent à se poser la question de l'impact des nouvelles technologies. Par impact, Bruno Poncelet évoque les conséquences sociales, environnementales et, d'une manière générale, sur tout ce qui touche à nos vies. Nous allons tout d'abord entendre le ressenti de Julien, qui participait pour la toute première fois à un débat « Penser ensemble ».
Salut. Alors voilà, j'ai gentiment été convié à un topo, à une réunion à l'auberge espagnole à Mont-Saint-Barœul ce samedi matin. J'ai passé un très bon moment. Il s'agit de participer à un débat très intéressant sur l'évolution des nouvelles technologies et sa présence dans notre vie de tous les jours. Et voilà, c'était un topo qui a été mené par Bruno, qui était un topo très 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 enrichissant, voilà. Et puis on a pu débattre d'une manière constructive avec toujours cette recherche d'optimisation, de recherche de solutions au cœur de ce petit groupe. On a pu refaire le monde à notre sauce, et donc c'était un très bon moment.
Si tu avais une idée ou un axe à retenir, ce serait lequel?
Alors c'est un axe qui me tient particulièrement à cœur, c'est comment on peut réhumaniser la société dans laquelle on vit actuellement. C'est peut-être un peu utopiste, mais l'idée c'est effectivement de remettre l'humain et ses valeurs au cœur de la société et les mettre, ne jamais perdre de vue que l'humain a de très belles valeurs, et voilà, il faut les mettre en lumière.
Je vous propose maintenant d'écouter Bruno Poncelet au travers de quelques extraits de ses interventions.
Alors j'avais expliqué que plusieurs journalistes avaient fait une expérience de travail chez Amazon pour pouvoir parler des conditions de travail chez Amazon. Et dans tous les cas, elles sont effarantes. Et donc je vais prendre le cas, puisqu'on est en France, de Jean-Baptiste Mallet, qui est un journaliste français qui est allé travailler plusieurs mois chez Amazon.
Donc, de la revue Goliath. Hein.
Oui, donc lui, son but, c'était vraiment de pouvoir dire comment ça se passe. Et donc, il s'est fait engager. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, quand tu es engagé chez Amazon, donc il était engagé pour travailler de nuit, et son boulot était d'aller chercher dans les entrepôts d'Amazon les colis qu'on devait envoyer, enfin les différents produits qui devaient être envoyés aux personnes. Donc lui allait dans un immense hangar chercher les produits. Ce qu'il racontait, c'est trois choses. Première chose, entre le moment où tu pointes chez Amazon et le moment où tu arrives sur ton lieu de travail, la pointeuse est à l'entrée du bâtiment, ton lieu de travail, tu fais un quart d'heure de couloir et de contrôle pour voir que tu n'emportes pas de marchandises avec toi. Et bien donc, entre le moment où tu commences à pointer et le moment où tu commences réellement ton travail, il peut s'écouler un quart d'heure. Donc ça veut dire que tu vas arriver dans le hangar pour venir travailler, tu vas passer un quart d'heure de contrôle de sécurité, puis tu vas seulement arriver à la pointeuse. Donc si tu arrives devant le bâtiment à l'heure de ton début de travail, tu es déjà systématiquement en retard. Donc tu es obligé d'arriver avec un quart d'heure d'avance qui n'est jamais comptabilisé dans ton temps de travail. Ça, c'est une petite tricherie. Deuxième chose,
une petite tricherie multipliée par un grand nombre
d'employés. Bien sûr. Mais je veux dire, c'est une petite tricherie qui est devenue tellement courante. Mais non, elle est évidemment catastrophique, hein, on est bien d'accord. Moi, je travaille dans un syndicat en Belgique, c'est catastrophique. Mais je vais dire, c'est encore une petite tricherie dont sont capables beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Mais c'est une petite tricherie en regard du reste. Donc le reste, c'est quoi? C'est que quand tu es quelqu'un qui va chercher les produits chez Amazon, tu dois prendre un petit scanner qui en fait va te donner tes instructions de travail. C'est lui qui va te dire, mais voilà, tu vas maintenant dans les 22, le rayon B, le produit Intel, tu vas chercher ça. Dès que tu l'as produit et que tu l'as scanné, il te dit, ah, maintenant tu vas au rayon 15 prendre ce produit-là. Autrement dit, tu es dans un travail qui est abrutissant parce que tu ne réfléchis absolument plus à ce que tu fais. C'est la machine qui te dit étape par étape ce que tu dois faire. Et surtout, cette machine encode le moindre de tes déplacements, le nombre de produits que tu collectionnes dans ton temps de travail, et évidemment compare ces données-là avec l'ensemble des autres travailleurs. Donc tu es mis dans un système où ta manière de travailler est encodée par des logiciels informatiques et où à tout moment on peut te comparer aux autres pour te dire, ah ben écoute, tu es plutôt au-dessus ou en dessous du lot, et si tu es en dessous du lot, t'as intérêt à redresser la barre. Je disais même que c'était encore plus catastrophique que ça, puisque la machine enregistre tes performances de travail tous les jours. Donc tu es dans un système où tu es mis en concurrence avec les autres travailleurs, mais tu es carrément mis en concurrence avec ta propre productivité à toi. Ça veut dire que si un jour tu travailles un peu moins bien, eh bien directement le scanner va se rendre compte que tu travailles moins vite qu'avant, et donc directement il va pouvoir lancer un message d'alerte à la direction qui va venir te trouver en disant, et c'est quoi ça, c'est faut un peu dresser la barre, quoi. Donc c'est quand même un système du marche ou crève. Ça veut dire que tu dois toujours être au taquet, toujours être ultra performant, parce que le jour où tu ne l'es plus assez, directement les logiciels le repèrent et peuvent te mettre de côté. Or, ce travail-là, et c'est le troisième dernier point qui me semble important de développer, il est hyper abrutissant. Et donc je disais que notamment Jean-Baptiste Mallet était un journaliste qui avait donc la facilité et la faculté de lire et d'écrire. C'est quelqu'un qui lit facilement et qui écrit facilement, c'est son boulot. Eh bien, il a décidé d'arrêter prématurément son expérience à Amazon quand il s'est rendu compte que rentrant de sa nuit de travail, il devenait incapable de mettre sur papier ce qu'il avait vécu. parce que pour lui c'était évidemment important de mettre sur papier ce qu'il avait vécu dans le but de faire son bouquin. Mmh. Et bien le jour où lui s'est rendu compte qu'il était tellement abruti par son travail qu'il devenait incapable de mettre des mots correctement alignés sur un papier, il a décidé d'arrêter.
Il est parti.
Pour moi, ça dit tout des conditions de travail chez Amazon. Donc voilà, alors je suis pas là pour défendre d'autres entreprises, la Fnac ou d'autres, mais simplement ce que je veux dire, c'est que quand on développe un Amazon et du commerce en ligne, on développe aussi des conditions de travail qui sont ignobles, tant en termes de salaire qu'en termes de conditions de travail, mais surtout à chiffre d'affaires égal, donc pour 1000 bouquins vendus, Amazon emploie infiniment moins de monde que la Fnac, qui elle-même employait déjà infiniment moins de monde qu'un libraire indépendant.
Bien sûr.
Donc plus on rentre dans une logique de commerce en ligne, par exemple d'Amazon ou d'autres, hein, parce qu'ils ne sont plus les seuls sur le marché, et bien plus on promeut de l'emploi dégueulasse et plus on promeut de la suppression d'emplois. Et ça, je pense que c'est un des aspects importants dans ce que j'ai discuté aujourd'hui avec les gens qui étaient présents, c'est que l'industrie numérique, c'est une industrie qui nous impose toute une série d'objets, de besoins, de nouvelles possibilités. Mais c'est aussi une entreprise qui souvent nous fascine. Et si la vente en ligne se développe, ce n'est pas seulement parce que les entreprises la proposent. C'est parce qu'aussi toute une série de consommateurs se disent « Ah, je préfère ça et c'est beaucoup plus sympa ». Mais moi, je voudrais dire aux gens qui achètent en ligne, réfléchissez quand même un peu aux conséquences sociales que ça a et aux conditions de travail que ça promeut, parce que vous êtes en train de favoriser un système qui est en train de détruire l'emploi et donc de favoriser la pauvreté, donc de favoriser la violence. Et finalement, vous êtes en train de favoriser à votre petite échelle un monde qui, moi, ne me semble pas spécialement sympathique.
C'est clair. Peut-être le troisième point que tu évoquais, c'est donc les questions de vie démocratique, hein, qui concernent à la fois la vie privée et d'une manière générale la politique finalement.
Alors oui, la vie privée, parce que on le sait déjà, hein, aujourd'hui, avoir un smartphone, enfin moi j'en ai pas, j'ai pas de téléphone portable, mais avoir un smartphone aujourd'hui, on est géolocalisable en permanence. Ça veut dire que les gens qui gèrent le GPS de votre téléphone portable peuvent dire en permanence où vous êtes. Les gens ne le savent pas, mais quand vous avez un smartphone équipé d'un micro et d'une caméra, vous faites des photos, c'est bien sympa, mais en fait, si jamais quelqu'un de malveillant, un hacker par exemple, voire éventuellement l'entreprise qui gère votre logiciel, décide d'activer cette caméra ou ce micro à votre insu, c'est tout à fait possible. Donc aujourd'hui, vous portez sur vous des objets qui sont tout à fait susceptibles de vous espionner, pas seulement en termes de localisation, mais aussi en termes d'écoute de ce que vous êtes en train de raconter, par exemple quand vous êtes chez vous avec votre copain ou votre copine ou vos enfants.
Ou les choix d'achat.
Voilà. Et donc ça, on a déjà aujourd'hui à travers le smartphone un petit objet qui est un outil, alors que quasi tout le monde possède aujourd'hui, mais qui est déjà un outil d'intrusion massive dans la vie privée. Il faut savoir, et ça j'en ai parlé tout à l'heure, que l'ambition de l'industrie numérique, et donc je parle de gros acteurs, mais notamment d'un lobby qui s'appelle Global System One, donc GS1, est demain de rendre tous les objets interconnectés. Autrement dit, d'équiper tous les objets d'une petite puce qui communique par une petite puce numérique qui communique par onde radio, on appelle ça des puces RFID pour radio fréquence identification, qui va faire en sorte que tous les objets vont rentrer en communication les uns avec les autres. Mais donc ça veut dire que dès que vous achèterez un vêtement, une peluche pour vos enfants, un bouquin, enfin n'importe quel objet que vous achèterez sera interconnecté via cette puce qui communique par onde radio, et elle sera interconnectée avec Internet, un Internet des objets à laquelle elle pourra donner des informations. Ah ben voilà, tiens, la personne qui me promenait aujourd'hui, il est allé me promener à tel endroit, et finalement, où il m'a donné à telle personne. Mais elle pourra aussi recevoir de nouvelles instructions. Autrement dit, demain, on va être appelé à vivre, en tout cas si cette tendance-là se confirme, on va être appelé à vivre dans un monde où le moindre objet qui nous entoura sera un objet qui va encoder les moindres faits et gestes de notre vie quotidienne. Et ça, c'est inquiétant, parce que la vie privée, je le rappelais tout à l'heure, c'est une liberté fondamentale. Et pourquoi est-ce que c'est une liberté fondamentale? Parce que l'histoire des sociétés nous a appris que quand on ne protégeait pas la vie privée des individus, toute une série d'acteurs malveillants, ça pouvait être des dictatures à une certaine époque, utilisaient les données privées des gens, mais par exemple pour repérer, alors je prends l'exemple, mais tous les gauchistes, et pouvoir les arrêter massivement et pouvoir éventuellement les faire passer de vie à trépas. Ça s'est passé dans pas mal de dictatures, notamment en Amérique du Sud. Donc la vie privée, c'est quelque chose de fondamental. Eh bien aujourd'hui, l'ambition du secteur numérique est de développer un Internet des objets, autrement dit, des objets qui s'interconnectent et donc où on va tous être dans des phases de communication voulues ou non voulues avec tous les objets qu'on achètera. Et ces objets vont être capables d'encoder nos moindres faits et gestes. c'est impossible de maintenir une vie privée digne de ce nom dans ce cadre-là. Et c'est pourtant l'objectif à la fois de l'industrie numérique, qui espère comme ça beaucoup mieux cerner nos besoins de consommateurs et repérer nos failles, nos faiblesses, pour mieux pouvoir cibler ses publicités sur nos points faibles, justement, et donc nous pousser à l'acte d'achat. C'est plus efficace, si je connais ton point faible, de te dire « achète ce truc-là qui te tente vraiment » plutôt que de te proposer un truc qui ne te tente pas du tout. Ça, c'est le premier volet. Et ça intéresse aussi un autre acteur particulier, ce sont les services secrets des États, qui évidemment, eux, espèrent, alors ils vont dire qu'ils espèrent repérer les méchants terroristes, en fait ils espèrent aussi pouvoir taper des profils politiques, des profils sociologiques de la population, à la fois pour repérer éventuellement des gens qui sont dangereux pour la sécurité publique, mais aussi parfois des gens qui ne sont pas du tout dangereux pour la sécurité publique, mais qui sont en train d'agir dans la norme qui n'est pas la norme politique du moment, hein, autrement dit des gens qui sont plutôt, qui sont simplement des opposants et qui dans une vraie démocratie, devraient être qualifiés de gens, de citoyens à part entière, mais qui là vont être vus comme des citoyens à surveiller de près. Et donc ça pose beaucoup de questions. Et donc ça pose beaucoup de questions parce que il y a énormément d'interconnexions entre le monde marchand, donc le monde des entreprises privées, des empires marchands qui promeuvent l'industrie numérique, et le monde politique. Et donc c'est là-dessus que j'ai terminé tout à l'heure en disant que si aujourd'hui on a comme ça toute une série de nouveaux objets qui semblent tomber du ciel, hein, les smartphones, les nouvelles applications, etc., c'est évidemment parce qu'il y a l'industrie qui travaille dessus. Mais c'est aussi parce que l'industrie travaille, et ça on ne le sait pas, travaille intensément à convaincre le monde politique d'instaurer toute une série de nouvelles réglementations ou de nouvelles techniques d'interconnexion pour les objets interconnectés, qui est un travail de l'ombre que personne ne connaît. Ça veut dire que pour que l'industrie numérique se développe, il y a évidemment besoin que les consommateurs réagissent positivement, il y a besoin que l'industrie numérique invente des nouveaux objets, mais il y a aussi besoin d'un acteur politique qui rende cela possible. Et aujourd'hui, et ça on ne le sait pas, mais à travers toute une série de décisions européennes, l'industrie numérique est en train de développer vraiment le fait d'imposer aux gens le fait d'aimer les nouvelles technologies. Et donc tout à l'heure, je parlais d'un programme politique qui s'appelle Europe 2020. Il faut savoir que ce programme politique Europe 2020, il est fait par l'Europe, donc il se décline à chaque échelle nationale, en France, en Belgique, en Angleterre, etc., etc. Mais il est décidé à l'échelle européenne. Et il a été décidé à l'échelle européenne parce que l'industrie numérique en a fait la demande à l'Europe, au monde politique. Et le monde politique a accepté de suivre cette logique-là et, par exemple, a développé comme objectif dans Europe 2020 le fait de promouvoir l'usage d'Internet. Mais donc, l'idée, c'est que 100% des gens dans chaque pays européen soient connectés à Internet. Parce que si demain, tu inventes des objets interconnectés, il faut que les gens soient interconnectés. Le but, je l'ai expliqué aussi, c'est de convaincre, par exemple, 50% de la population de faire, plutôt que d'aller voir leur administration pour demander des papiers d'identité ou pour aller faire une démarche administrative, c'est plutôt que les gens le fassent par Internet.
L'e-administration.
Voilà, ce qu'on appelle l'e-administration. Le but, c'est quoi? C'est évidemment de faire en sorte que les gens s'habituent de plus en plus à passer par une plateforme web plutôt que d'aller physiquement voir quelqu'un qui travaille à l'administration. Parce que dans l'objectif de supprimer des emplois dans l'administration et dans la fonction publique, c'est évidemment pratique que les gens n'aillent plus dans l'administration.
Bien sûr.
Et alors, j'ai insisté aussi sur l'autre aspect, c'est qu'on est en période d'austérité, et pourtant, donc on dit moins de sous pour l'enseignement, moins de sous pour les transports publics, moins de sous pour la sécurité sociale et donc la santé, le droit d'accès à la santé. Eh bien, très paradoxalement, cette période d'austérité publique promue par l'Europe et développée par l'Europe, défendue par l'Europe qui dit « vive l'austérité », hein. Eh bien, l'Europe, en matière numérique, elle ne dit pas « vive l'austérité ». Elle dit au contraire, il va falloir que les acteurs publics, donc les finances publiques, acceptent de dépenser plus d'argent pour développer toute une série de, par exemple, de fibres optiques ou d'antennes d'interconnexion afin que, justement, le secteur numérique puisse se développer. Donc, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on est dans une phase où on réduit toutes les dépenses publiques, mais là-dessus, on ne les réduit pas, au contraire, on les augmente. Et alors, l'objectif, c'est quoi? L'un des objectifs, c'était de dire notamment que dans chaque pays européen, de plus en plus de gens devaient faire de l'achat en ligne et que notamment on devait arriver à convaincre une personne sur cinq, c'est énorme, une personne sur cinq, de faire de l'achat en ligne transfrontalier. Donc par exemple de convaincre un Français d'acheter via un site d'achat en ligne un produit qui n'est pas commercialisé en France mais par exemple qui est commercialisé, je sais pas, on va dire en Grande-Bretagne. L'objectif est toujours le même, c'est de nous habituer à utiliser Internet et toutes les nouvelles potentialités. Et donc l'objectif il est politique, hein, donc il est écrit, c'est un cahier de charge politique, et donc le but est de convaincre la population d'arriver à convaincre la population de faire ce genre d'actes pratiques de consommation dans le but justement que l'acte devienne naturel et qu'on ne le sente plus comme un acte qu'on nous impose, mais comme un acte qu'on a soi-même désiré. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que c'est un programme politique, et donc quand on bascule là-dedans de son plein gré, en fait on répond à une demande politique et ça va m'orchestrer à travers toute une série de mécanismes.
Finalement on n'est pas libre quoi.
Et donc finalement, alors après on peut trouver ça très sympathique, hein, on est libre de trouver ça très sympathique, mais ce que je veux dire c'est que ce côté très sympa, en fait il est décidé de concert par l'industrie numérique et par les gouvernements qui ne nous disent pas un mot de leur entendre sur ce point-là, de manière à nous convaincre d'aller de plus en plus dans des usages d'Internet. Et alors le but c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a rendu par exemple l'acte d'achat en ligne quasi inné, naturel et automatique chez les gens, eh bien on va pouvoir leur vendre des frigos intelligents, donc des frigos qui seront équipés de puces numériques, avec des produits à l'intérieur qui seront équipés de puces numériques. Et si vous êtes par exemple un grand consommateur de yaourt et que vous avez acheté 6 pots de yaourt, le frigo intelligent enregistre qu'il y a 6 pots de yaourt dans le frigo, vous en avez mangé 4, ben le frigo intelligent sait qu'il n'y en a plus que 2, il se dit bingo, je dois recommander. Et le frigo intelligent va se connecter sur une plateforme de vente en ligne et recommander automatiquement vos nouveaux yaourts. Et ça, ce n'est possible que dans un monde où on a habitué les gens à acheter en ligne, à trouver normal d'acheter en ligne. Mais je vais rappeler que quand on rentre dans ce genre de monde-là, mais on favorise des entreprises de vente en ligne qui n'ont rien à foutre des conditions de travail et qui n'ont rien à foutre d'offrir du travail à tout le monde, et qu'en même temps, on tue de l'emploi local à travers des indépendants, des PME, des petits commerçants qui, eux, dépendent de leur des gens qui vont les venir voir sur place pour acheter des produits qui sont vendus dans leur magasin et qui vont vendre de moins en moins de produits, parce que plus on va basculer dans l'achat en ligne, moins on se déplacera pour acheter un produit dans un magasin, moins on se déplacera pour aller voir quelqu'un dans l'administration. Et donc tout ça, ça annonce des suppressions d'emplois qui sont d'autant plus terribles, qu'on ne va pas partager le temps de travail existant, mais qu'on va justement virer de plus en plus de gens pour garder un minimum de travailleurs. Alors voilà, le mot de la fin, ce serait peut-être aussi de dire que cette réflexion sur le secteur des nouvelles technologies, le but n'est pas de dire que tout est mauvais, mais le but c'est de dire ne croyez pas tous les messages publicitaires que vous recevez. Le monde de l'industrie numérique adore communiquer en disant on facilite les communications, on facilite la vie de famille, on facilite votre vie. Enfin, c'est toujours un monde où tout est merveilleux dans la communication.
La santé aussi,
la santé.
L'industrie du numérique permet des choses au niveau de la santé qui sont formidables.
Moi, ce que j'ai juste envie de dire ici aux gens, c'est ayez un regard un peu plus critique que ça. Rendez-vous compte que derrière le miracle qu'on est en train de vous vendre, il y a des logiques qui sont catastrophiques sur le plan environnemental. Or, on ne peut pas bien vivre sans une terre en bonne santé, et la terre est en mauvaise santé. Il y a des logiques qui sont catastrophiques déjà aujourd'hui sur le plan social, pour des enfants qui travaillent en Chine, en Asie, ou qui meurent carrément dans l'industrie minière en République démocratique du Congo ou ailleurs, pour fabriquer des objets qui ont donc du sang sur les mains. Il y a également des conséquences sociales catastrophiques qui s'annoncent demain si on supprime des tonnes d'emplois dans des secteurs différents, sans jamais se soucier de partager le temps de travail disponible, qui va diminuer puisque les nouvelles techniques vont permettre d'économiser du temps de travail. Ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est au-delà des messages publicitaires que vous envoie l'industrie numérique pour disant « mais regarde comme il est sympa mon smartphone, regarde comment il est sympa mon crédit, regarde comment tu pourras envoyer des SMS, comment tu pourras télécharger des vidéos, etc. » Rendez-vous compte qu'il y a un impact écologique, qu'il y a un impact social, et adoptez peut-être un regard critique, informez-vous sur ça. Essayez d'exercer votre sens critique en achetant des bouquins qui en parlent de façon intelligente, en regardant, alors je vais faire la promo d'une émission comme Cash Investigation faite par France 2 et qui raconte beaucoup de choses intelligentes sur l'envers du décor du monde de l'industrie. Et soit vous avez vraiment envie de ces objets, et alors essayez de développer des pratiques alternatives en utilisant des logiciels libres, en essayant de partager les outils informatiques que vous avez avec d'autres personnes de manière à diminuer le nombre d'achats par rapport au nombre de personnes qui utilisent ces objets, ou carrément, si vous en avez le courage, en vous passant parfois de certains objets informatiques. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'on est dans un objet interconnecté, donc quand on n'est pas interconnecté, on n'est pas mode, on n'est pas in, on n'est pas people. Mais en même temps, c'est parfois aussi enrichissant de pouvoir se passer de certains biens et de redévelopper des rapports humains qui sont un peu différents.
Cette émission reportage est maintenant terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Le morceau de rap que vous avez écouté en introduction est un morceau du groupe français Soul Connection. Il s'intitule « Il marche », c'est de la musique libre. Soul Connection est composé de 3 rappeurs qui nous font partager leur point de vue sur le rap, ce qu'il a été, ce qu'il devrait être et particulièrement le rôle qu'il devrait jouer dans la société. Nous terminons d'ailleurs cette émission reportage avec Soul Connection et un autre morceau, « Le peuple suffoque ».
Je m'appelle Danielle, j'ai 60 ans. Je suis à la retraite depuis un an. J'ai travaillé pendant 40 ans à l'usine.
L'avenir.
Un trou noir.
Je me dis, je vais le jour d'aujourd'hui et après demain, je sais pas.
Parce qu'il n'y a rien de positif dans ce qui se présente.
Surtout pour les jeunes, trop nombreux, pas avoir fait de travail.
Je suis retourné dans l'intérim. Et là, en ce moment, je suis en CDD.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. C'est la faute du système. Justement, réinsérer les jeunes, leur donner du travail. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça?
Écoute-les, ils ont tous leur histoire. Lis leur regard, ils la reflètent comme un miroir. Ils sont tous différents, mais tous semblables, innocents. Même si beaucoup portent des têtes de coupables, leurs conditions de vie expliquent ce même tabard. Leur manque de perspective justifie ce même désespoir. Le destin sonne pour tous au même diapason. Pas besoin d'être de femme pour comprendre la situation. Ici des femmes élèvent seuls leurs enfants, cumulent des jobs bidons pour les élever décemment. Ici des jeunes sont pris pour des pigeons, compromis du chômage en intérim avec un pompon. Des types paumés traînent toute la journée. Longue carrière de RMIS, 40 balles et passées. Je parle de familles déchirées, d'hommes compressés. Des conséquences au manque, au droit du travail. Ils prétendent que pour surmonter la crise, l'Europe peut être la solution. Mais la construction d'un empire avec le même mode de production ne changera pas nos vies ni nos situations. Au nom de l'Europe, démantèlement des états souverains. L'empire allemand contre l'empire américain. Division du peuple, communauté et religion. Quelques indicateurs avant l'explosion.
Le peuple suffoque, asphyxie. Enquête, trop de coups, apoplexie.
Y'a plus de réflexe puisqu'on cultive l'apathie.
Sans appétit, mental ou crête d'anorexie.
Le peuple suffoque, asphyxie. Enquête, trop de coups, apoplexie.
Y'a plus de réflexe puisqu'on cultive l'apathie.
Sans appétit, mental ou crête d'anorexie.
La richesse de l'Europe, c'est bien entendu sa diversité. Donc il faut. C'est bien pour ça d'ailleurs que nous avons tant besoin de l'Europe.
Je vois ce que cachent tous ces discours.
Il est facile de diriger un homme qui ne réfléchit plus, un homme isolé ou bien un homme corrompu. Tout le monde sait une banalité, tout le monde est consterné. Le problème, le peuple tout entier est concerné parce qu'ils ont fait de nous un peuple désuni, une agrégation d'hommes démunis et avilis. La technique se met le trouble, masque. Les anges créer des haines, jeter la poudre aux yeux. Ils nous divisent en petits groupes, en communautés. Nous hachons petits morceaux avec des identités. Substitue les problèmes de classe par des problèmes de race. Nous voilent la face avec mensonges et tours de passe-passe. Aujourd'hui le monde est en feu et à sang. La future puissance de paix nous mettra tous en rang. Peuple contre peuple pour faire de la chair à canon. Au milieu d'une guerre entre puissances en conclusion. On veut nous faire croire que pour surmonter la crise, l'Europe peut être la solution, mais la construction d'un empire avec le même mode de production ne changera pas nos vies ni nos situations. Au nom de l'Europe, puissance de paix, monnaie unique, intégration, droit du sang, clivage ethnique, abrutissement du peuple, langue et régionalisation. Quelques indicateurs avant l'explosion.
Le peuple suffoque, asphyxie. Apoplexie.
Y'a plus de réflexe puisqu'on cultive l'apathie.
Sans appétit, mental ou crête d'anorexie.
Le peuple suffoque, asphyxie.
Enquête,
recours, apoplexie.
Y'a plus de réflexe puisqu'on cultive l'apathie.